Pulp raconte crûment une Grèce en crise. Enfin, le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy pour Le rêve du jaguar.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous êtes bien sur France Culture. Tout de suite, François Angelier.
Et vous écoutez France Culture. Effeuillage. Opération consistant à supprimer le feuillage qui fait de l'ombre aux fruits afin d'améliorer leur ensoleillement et de favoriser leur maturation. Trésor de la langue française. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui, pour clore dignement ce millésime 2024, sera entièrement consacré à la poésie, à la technique du striptease et à l'univers de l'effeuillage, et ce avec deux des principales figures actuelles de ce noble art, Sucre d'Orge et la Big Bertha. Une rencontre proposée par Céline Duchesnay. Chronique en second temps d'émission signée Céline Duchesnay et Paloma Hermine Hidalgo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre en ce 28 décembre. J'espère que vous avez dûment fêté Noël, que les chaussons étaient très bien fourrés et que, d'une manière générale, vous avez été heureux en ce jour où un sauveur nous est né. Le 28, eh bien, on se remet un peu de tout cela, mais on garde quand même le tempérament et on garde l'énergie. Et ce soir, bonsoir Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Vous nous avez concocté une des émissions dont vous avez le secret avec des invités que vous seul connaissez au point de les attirer sur des plateaux de radio. On va dire de qui il s'agit.
Oui, il s'agit donc de Sucre d'Orge et de Big Bertha. On va dire que c'est mon cadeau de Noël, cet entretien ce soir. Voilà, ils étaient dans mes petits souliers, soyeux.
Voilà, bah je salue Sucre d'Orge.
Bonsoir.
Avec qui nous allons parler justement des feuillages, mais pas seulement, puisque vous opérez en tenue de musicienne, vous êtes luthiste, et on va vous écouter lutter. Lutter et chanter, merci d'être là. La Big Bertha, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à Mauvais Genre, on vous a déjà croisé, vous étiez là lors d'une précédente, comment on dit, une duchénade, une célinerie, il faut trouver un mot.
Non, c'était totalement collectif, voilà. Souvenez-vous, François Angelier. Et en effet, la Big Bertha accompagnait notre cher Christophe Beer lors de notre cabaret Mauvais Genre au secret. C'était en juillet 2023, je crois, de mémoire.
Absolument. Et on salue d'ailleurs toute l'équipe du secret. Qu'est-elle devenue, cette équipe?
Elle s'appelle Barbichette maintenant. Et je crois d'ailleurs qu'aussi bien Big Bertha que Sucre d'Orge pourraient en parler. Voilà. Et on salue Monsieur K au passage.
Et Monsieur K, soyez notre ami pour toujours. Paloma Hermine Hidalgo, est-ce que vous pratiquez les feuillages? Question brutale. Indiscrète.
J'aurais souhaité une question plus insidieuse, effectivement. Je pratique les feuillages dans la définition du TLF, naturellement. Je suis saisonnière.
Et vous allez nous parler de quoi ce soir?
On évoquera ce soir Les Nuits sans Kim Sauvage de Sabrina Calvo, un roman chatoyant, queer en diable et cyberpunk.
Merci à vous. Et ben, maintenant, place au striptease, place à les feuillages.
Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour, s'en vont une à une mes illusions. À chaque nuit, un autre automne. Ces feuillets est bien monotone. Et tout ceci pour qui? Pourquoi? Est-ce pour lui? Est-ce pour toi? Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu es, soit dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères de ma bouche à ma jarretière, car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. Ici s'achève le striptease qui te grise et m'idéalise. Voici la chair de la poupée, ses vêtements éparpillés. Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme ingénue. Et je reste en tout point pareil, là, plus simple appareil.
Voilà la chair de la poupée, la voix de Bérangère Basti sur des mots de Serge Gainsbourg qui nous grise et nous idéalise, un choix bien évidemment de Laurent Polleret que nous saluons. Alors, on va commencer, on est à France Culture, Céline Duchesnet, par des choses sérieuses, de terminologie et de lexique. Striptease et feuillage, que doit-on entendre par là ?
Ah, je crois qu'on peut quand même commencer par une date qui est, je dirais, la date clé, en tout cas, de l'origine du striptease. Et cette date, c'est 1894, en tout cas en France, puisqu'on part du principe que le premier striptease a eu lieu à Paris par une certaine Blanche Cavelli, dans une pantomime qui s'appelait Le coucher d'Yvette. Et cette pantomime consistait à 30 minutes de déshabillage où donc une jeune femme sur scène, jeune mariée, se languissait de l'absence de son mari parti au service militaire. Donc on a la photo du mari posée sur une petite table, un lit, et cette chère Yvette qui petit à petit retire ses habits tout en pensant évidemment à son mari. Donc on pourrait dire que le premier effeuillage a été un grand moment de suspense puisque ça dure 30 minutes et qu'au bout de 30 minutes, on n'a quasiment rien vu puisqu'on ne verra jamais le corps déshabillé de Blanche Cavelli. Donc je crois qu'on pourrait commencer par cette première date et c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas de striptease, on parlait d'effeuillage, d'artichaudage,
d'artichaudage.
Oui, comme un artichaut dont on retire
feuille après feuille jusqu'à la fourrure.
Feuille. Gommeuse, il y avait aussi le terme de décarpilleuse et ce terme de striptease, donc c'est tout strip, se déshabiller, tout tease, agacer. Donc c'est un mot qui a été inventé aux États-Unis, qui date des années 30 et qui a dû, je pense, arriver en France après la Seconde Guerre mondiale avec les pin-up et en tout cas dans les bagages des GIs. Et ça a totalement supplanté ce terme d'effeuilleuse que je trouve pour ma part assez joli.
Oui, c'est un beau terme. Je me permettrai de remonter encore de quelques siècles avec Salomé et la danse des sept voiles. Parce
oui.
que pour séduire le tétrarque Hérode, Salomé entame une danse des sept voiles qui est peut-être le premier striptease historiquement repéré, puisque c'est à peu près un striptease. Elle finit nue devant libidineux.
Est-ce que c'était montré sur scène ? C'est raconté.
Alors, c'est dans la cour d'Hérode, donc on est déjà dans une configuration qui est un petit peu... Mais c'est vrai que Blanche Cavelli, c'est quand même là. La prima donna, qu'est-ce que vous en pensez, sucre d'orge ? Vous avez la photo de Blanche Cavelli dans votre loge ?
Non, mais moi je me dis qu'on pouvait peut-être déjà imaginer des effeuillages dans les grottes de Lascaux en parcours immersif, aux chandelles.
Ah oui, les feuillages préhistoriques. La Big Bertha, on pense quoi de l'effeuillage préhistorique ?
Moi, l'effeuillage préhistorique, mais oui, bien sûr, avec une massue et beaucoup de poils, n'est-ce pas ? Ça peut être fantastique.
Ben voilà de quoi tenter et intéresser les metteurs en scène s'ils nous écoutent.
Voilà, et surtout pour dire que l'effeuillage, en fait, n'a pas d'époque précise. Je crois que le fait de se déshabiller en public a pu exister sous diverses formes. Mais là où, quand même, j'insiste un petit peu sur Blanche Cavelli, c'est vrai qu'avant elle, on pouvait voir des corps nus, mais dans ce qui s'appelait des tableaux vivant. Donc la condition, c'était de ne surtout pas bouger. Donc ça n'était pas considéré comme érotique à partir du moment où le corps était immobile. À partir du moment où le corps s'est mis en mouvement, là, ça commençait à devenir un petit peu plus licencieux, en tout cas dans les yeux des spectateurs et des spectatrices.
Mais alors, pendant longtemps, on a identifié le striptease avec le striptease de cinéma, parce que la plupart des gens voyaient, sauf ceux qui fréquentaient les établissements spécialisés, ne voyaient de striptease qu'au cinéma, et le cinéma essentiellement américain. Donc il y a quand même, c'est un type de striptease qui a été privilégié pendant peut-être des décennies sur d'autres formes d'expression ?
Oui, ne serait-ce que parce qu'on utilise ce terme de striptease et qu'on n'utilise plus le terme d'effeuilleuse. Mais après, je crois que ce qui est intéressant et ce qu'on va voir avec Sucre d'Orge et Big Bertha, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire le striptease. Il y a eu évidemment des modes, il y a des courants, on peut s'inspirer de l'un ou de l'autre, picorer à droite et à gauche et surtout créer son propre univers.
Et le burlesque, quelques mots du burlesque. Alors, et du néo-burlesque.
Le burlesque est un terme qui nous vient aussi des États-Unis. Au départ, c'était un type de spectacle qui se tenait en Angleterre, qui était un spectacle où on pouvait rire et qui était plus pour les classes populaires. Et à partir du moment où on a introduit du licencieux, à ce moment-là, le fait de se déshabiller est arrivé aussi aux États-Unis. Et donc, c'est ce terme qui nous est arrivé après aussi. Donc, quand on parle de burlesque, on n'est pas en train de rire. On peut être en train de se déshabiller, ce qui n'empêche pas le rire, si on veut aussi. Mais en tout cas, ça nous vient des États-Unis.
La Big Bertha, le burlesque.
Oui, tout à fait. C'est toute cette mouvance américaine qui a débarqué en France, avec tout d'abord le burlesque classique, qui était vraiment l'effeuillage des pin-up, où c'était vraiment dans la sensualité et dans... l'exacerbation de la féminité. Mais après, un autre courant est arrivé, du new burlesque, néo-burlesque, justement, pour casser un petit peu tous ces codes de cette pin-up avec des formes bien précises, avec des choses très lisses. Et le new burlesque est arrivé pour casser tout ça, parce qu'on a vu débarquer des petits bouts de femmes, grosses, rondes, des Dirty Martini,
Kissy Scostrabol aussi.
Exactement. Et c'est ça, pour moi, personnellement, qui m'a le plus parlé. Parce que moi, la Big Bertha, quand même, c'est pas facile à transporter, hein, on va dire. C'est que ça reste 2 mètres et 130 kilos. Et c'est pour ça que le New Burlesque m'a tout de suite parlé. Et tout ce qui va à l'encontre de la norme m'intéresse.
Bah, on va en parler. Sucre d'orge, le burlesque,
Pour moi, je dirais que les feuillages, aujourd'hui, c'est forcément les feuillages burlesques. Pour moi, le mot l'un va pas sans l'autre. Et c'est vrai que quand parfois des personnes disent « Ah, mais burlesque, c'est pas le cinéma de Charlie Chaplin », j'ai un petit peu un temps de recul pour me rappeler que oui, c'est pas juste les feuillages burlesques. Et justement, faire le lien auprès des publics en expliquant en quoi finalement ce terme de burlesque n'a peut-être pas grand intérêt de le disséquer plus que ça. C'est les feuillages burlesques, c'est comme ça, c'est le nom, point.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Voilà la musique de Paul Misraki, interprétée par le grand orchestre de Laurent Polleret, tous les samedis sur France Culture, mauvais genre, qui reçoit ce soir Sucre d'orge et la Big Bertha dans le cadre d'une émission entièrement consacrée au striptease. Alors voilà deux invités, Céline Duchesnet, dont les parcours ne sont pas identiques. On peut peut-être commencer par l'idée, comment arrive-t-on justement à ce statut d'étoile du striptease aujourd'hui?
Et si on leur posait la question?
Ben voilà.
On commence par Sucre d'orge. Alors Sucre d'orge, est-ce qu'on naît comme ça et tout à coup on se met à faire un striptease? C'est peut-être le premier striptease, la naissance.
D'un point de vue personnel, j'avoue avoir toujours été amusée par l'idée de me déshabiller plus ou moins en public ou de me costumer, mais en général, un costume, il faut bien l'enlever. Je pense que ça, je le partage avec beaucoup d'enfants, peut-être de petites filles et pas seulement. Après, d'un point de vue académique, rien n'a été fait pour que j'en arrive là, je dirais. Ceci dit, les crises économiques m'ont poussée plus ou moins sur les scènes des cabarets par des rencontres. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Voilà.
Parce que vous n'avez pas fait une école de striptease, je crois.
Y a-t-il une école de striptease en
France ?
Alors
ça peut exister, cela dit, ça peut exister. Voilà. Mais ouais. Je faisais une autre allusion, un peu perfide, au parcours de Sucre d'Orge.
Non, moi j'ai fait une prépa lettres et l'ESSEC. Mais comme on dit à l'ESSEC, c'est pour ça que je voulais intégrer cette école, l'ESSEC mène à tout. Donc on nous disait, il y a parmi les anciens de l'ESSEC, un psychanalyste, un prêtre, etc. Et bien désormais, il y a une effeuilleuse burlesque. Et voilà, et donc c'est vrai que quand j'ai été diplômée, c'était en 2008, et ça a été très difficile de trouver un travail, même pourri, si je puis dire. Donc j'ai été amenée à trouver du plaisir un peu comme je pouvais par ailleurs, et à rencontrer des gens qui pratiquaient l'effeuillage burlesque, et à l'époque c'était à peu près le renouveau à Paris, depuis un an ou deux, je pense. Et j'ai commencé comme ça, vraiment par curiosité. Et en me voyant sur une vidéo de 30 secondes, en toute humilité, j'ai trouvé ça pas trop mal. Et donc, je me suis dit que j'allais refaire. Et comme c'était le renouveau et que je faisais un peu partie des quelques petites pousses de soja, là, comme ça, qui arrivaient dans le germinateur, bah, j'ai dit OK. Je disais oui à chaque fois qu'on me proposait de monter sur scène. Et voilà.
Mais parce qu'il y avait déjà aussi un goût de la danse qui était très prononcé chez vous.
Oui, bah, j'avais fait de la danse comme, bah, encore une fois, hein, pas mal de petites filles, mais sans grand talent, mais avec pas mal d'entrain. Et voilà. En fait, surtout à cette époque-là, quand j'ai découvert le burlesque, j'ai aussi découvert un groupe de personnes avec qui je m'entendais très bien et qui avaient beaucoup de talent créatif et artistique, mais pleinement exploité et professionnalisé. Et d'instinct, je me suis dit que si je voulais continuer à être appelée par eux pour sortir, il fallait que j'amène aussi quelque chose à leur édifice. Et à part des tableaux Excel, je me suis dit, je vois pas quoi proposer. Et je me suis dit, mais quand même, moi, je sais un petit peu bouger. Eux, pas tant que ça. Et peut-être qu'on peut arriver à faire un travail d'équipe comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai proposé à ces amis-là de poser pour les dessinateurs dans les séances qu'ils organisaient, qui s'appelaient Dr. Sketchy. Et après, de faire une performance, parce qu'il y avait souvent des performances. Et j'ai dit à Sorel Smith, qui organisait les soirées, je pense que je peux essayer. Si tu me donnes un costume une semaine avant, une musique, je vais improviser un truc, et puis on verra si c'est bien ou pas. Et puis c'est pour le fun, quoi. Et du coup, ça a plutôt fonctionné. Et de fait, on est devenus vraiment amis aussi, je pense, à partir de ça. Parce que j'ai amené quelque chose d'autre qu'ils n'avaient pas dans leur équipe, quoi, tout simplement.
Et Big Bertha ?
Oula, pas du tout académique, de mon côté. Vraiment pas. Moi, je suis de formation de comédien, à la base. Et le théâtre, la danse ont été des pratiques depuis mes 6-7 ans. Et moi, c'est toute mon adolescence, en fait, j'ai été un petit rat de bibliothèque puisque je cherchais plein de bouquins sur l'univers du cabaret. Parce que moi, très petit, à l'âge de 6 ans, j'ai découvert le Crazy Horse.
Découvert le Crazy Horse. Ah, comment?
Parce que
sur Antenne 2
à l'époque.
Mon Dieu, ça nous rallie, c'est le générique de Folon ou de Mathieu.
Il y avait le soir de la Saint-Sylvestre, il diffusait à minuit le Crazy Horse. J'ai découvert ça et j'étais mais...
Après la messe de minuit.
Après la messe de minuit, après le dîner, après tout ça. Et j'ai découvert ça et je suis vraiment tombé amoureux de la discipline. Donc j'ai fait mes recherches et puis... avec l'âge, je suis monté sur Paris parce que je viens du sud de la France pour faire des études de théâtre. Et de par des rencontres et aussi de par des inspirations, des influences, je me suis dit mais le théâtre c'est pas quelque chose qui t'intéresse à 100%. T'aimes bien aussi l'opéra, t'aimes bien la danse. Et je me suis retrouvé dans l'univers du drag, donc l'art drag, les drag queens. Et quand je performais en drag, j'ai fait des rencontres avec des effeuilleuses burlesques, dont une qui s'appelle Maud Amour. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a vu une fois sur scène et elle m'a dit « Bertha, dans un an, tu fais de l'effeuillage ». Je lui ai dit « Non, je ne pense pas ». Puisque moi, ma relation avec mon corps à l'époque était très compliquée, de par mes formes. Eh bien, un an après, j'étais sur scène en train de m'effeuiller. Donc j'ai commencé là-dedans, et pour moi, le burlesque a eu une vocation certes artistique, mais aussi thérapeutique. Puisque j'ai réussi à grâce au spectre de la Liberta, à me mettre à nu, ce qui était très compliqué avant, de voir un corps gros qui sortait de la norme. Voilà, la plage, par exemple, c'était très compliqué pour moi avant. Mais le burlesque m'a aidé à embrasser ce corps, à se dire « mais attends, mais il est différent, il est fantastique, il est merveilleux. » Et tu peux le transformer en objet d'art sur scène et jouer des codes du burlesque avec ce corps-là.
Et je rejoins Bertha sur le Crazy Horse, parce que moi aussi, à la même époque, j'étais chez mes grands-parents pour les Nouvel An, et je sais pas comment c'est possible, mais enfin, je me retrouvais toujours dans ma petite chambre devant la télé, tout le monde était au courant, à regarder le Crazy Horse, et j'étais trop fan également. Et je me disais en regardant ces filles, oh là là, j'aimerais trop être comme elles plus tard, mais quand on a 8 ans, on n'a aucune indice de savoir. Et puis je me disais, bah, je sais pas, peut-être que tout le monde est comme ça, ou est-ce que c'est un choix? Enfin, j'avais un questionnement par rapport au corps comme ça qui allait arriver. Je savais pas s'il allait arriver comme un cadeau qu'on n'a pas choisi, ou parce qu'on a décidé, ou, enfin, ça m'intriguait beaucoup. Et je rêvais de les rejoindre, et si je peux me permettre cette anecdote, mon stage de fin d'études, c'était chez L'Oréal. Et je pense que j'ai frôlé la dépression.
Ah bah, oui.
Mais mon premier jour off, je me rappelle l'avoir posé. J'ai envoyé un mail au Crazy Horse en demandant les modalités du casting. Sans espoir d'y arriver, mais un peu un coup de tête. Et ils m'ont dit, venez la semaine prochaine. Ils m'ont même demandé ni photo, ni CV, ni rien. Donc je me suis dit, j'y vais, je vais me prendre un mur, mais c'est pas grave. Et la veille du truc, d'ailleurs, je me disais, oh, et s'ils disaient oui, est-ce que j'irai ou pas? C'était vraiment effrayant un peu. Mais finalement, c'est comme jouer au loto, c'est ce genre de mise en abîme et de gros questionnements qui est fun plus que le résultat derrière. Donc j'ai fait l'audition, alors évidemment, je ne l'ai pas eu. Hein. Enfin, je dis évidemment parce que je ne vois pas comment j'aurais pu l'avoir. Mais le moment amusant, c'est quand on était tout en randonnant dans les loges pour faire la petite improvisation, seul, en string, en talons. Et moi, je me disais, mon Dieu, mais c'est génial d'être là alors que les autres, ils sont derrière leur bureau à faire des trucs tout pourris. Et moi, je suis là en string, je vais me vautrer, mais c'est tellement génial. Et donc, à quelques filles, ils ont dit, posez de profil, cambrez-vous, machin. Donc là, on se disait, elles ont une chance. Bon, moi, ils m'ont dit merci. Et puis, c'était fini. Mais je m'en fous, je l'ai fait. C'était cool.
L'ESSEC étant, bien sûr, l'école supérieure d'effeuillage et de contorsion. Revisité par Sucre d'Or. D'ailleurs, parlons justement du nom.
Sucre d'Or.
Bah voilà, parce que quand même, nos auditeurs doivent se dire « mais quand même ».
C'est vrai. Moi, quand je l'ai choisi, c'était très très tôt. J'avais fait un cours ou deux d'effeuillage burlesque avec une Américaine qui s'appelait Gentry de Paris. J'en ai pas fait plus de cours, mais je me rappelle que tout de suite, elle nous a dit « trouvez un nom de scène, etc. » Et je me disais, mais c'est complètement débile, parce que un nom de scène, ça doit désigner quelque chose, et ce quelque chose-là, à l'heure actuelle, pour moi, il n'existe pas, et c'est même pas sûr qu'il existe. Je suis là pour découvrir. Bref, mais ça m'a quand même un peu amusée, puis j'aimais bien les mots et tout, donc j'ai pris un petit cahier, et j'ai copié des noms de chevaux de course, et les noms de danseuses du Crazy Horse, et voir un peu les récurrences. Et bon, bah, je sais pas, j'avais plein de petites idées comme ça, et puis à un moment...
Capsule à popo, flashy cadillac.
Ouais, ouais, mais tout peut marcher. Exactement, tout peut marcher. Puis je voulais surtout un nom, comme j'avais rien de défini, bah, qui définisse rien non plus, qui soit pas ancré dans une époque, parce que souvent en effeuillage, on peut se dire, j'ai envie d'être vraiment identifié aux années 20, ou alors à l'entre-deux-guerres, j'en sais rien. Moi, pas du tout, et puis... Voilà, je pense que mon envie à ce moment-là, c'était vraiment d'être dans une liberté et qu'on vienne pas m'emmerder, quoi, en deux mots. Donc, du coup, je voulais un mot intemporel qui n'indique rien et j'ai fait un peu d'écriture automatique et puis j'ai écrit Sucre d'Orge et là, je me suis dit, oh là là, ça c'est bien parce qu'il y a un prénom et il y a une particule, c'est toujours chic. Et puis dans les sonorités, sucre, c'est comme ça. Et puis orge, c'est, il y a une amplitude. Et puis il y a forcément un peu Gainsbourg dedans. Orge, il y a orgie, il y a ogre.
Les sucettes.
Tout ça m'a plu. Et j'ai cherché d'autres choses après. Mes amis énarques m'ont proposé un super nom que je me réserve, je vous le dis, pour une autre vie. C'était Trésor Public. J'adore.
Génial.
Je trouve ça formidable. Et
voilà
franchement...
pourquoi il ne faut pas supprimer l'ENA. C'est qu'il y a des gens qui trouvent des idées pareilles.
Franchement, je me dis, voilà, je vais peut-être me le ressortir un jour. Mais à ce moment-là, je me suis dit, oh, j'ai quand même envie que ce soit moi qui l'ai choisi. Sinon, je vais toujours devoir dire que je le dois à quelqu'un. Et ça m'embêtait. Quoi.
Alors, la Big Bertha, là, ce n'est pas intemporel, ni...
C'est
à l'origine, ça tirait des obus depuis Nancy jusqu'à Paris.
Alors, si vous voulez, il y a ça, mais il y a aussi des clubs de golf, il y a aussi une entreprise américaine qui font des poufs, voilà. Quoique ça me va bien, je peux être égérie. Hein. Non, moi, l'origine du nom La Big Bertha, c'est une rencontre entre une personne et une passion. Comme je vous ai dit, quand j'étais adolescent, je me renseignais énormément sur l'univers du cabaret et j'ai rencontré le nom d'un grand personnage du cabaret parisien qui s'appelle Jean-Marie Rivière, qui est le papa du cabaret parisien.
L'Alcazar.
L'Alcazar, la Grande Gêne, le Paradis Latin. Et il a été un des premiers dans les années 60 à créer un groupe de quatre drag queens, les Incroyables. Et ces drag queens ont eu la chance de parcourir le monde entier. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai appris que ces drag queens performaient encore à Bobinon, les quatre. Donc moi forcément, j'ai commencé à manger du riz. Et à dépenser tout mon argent pour aller les voir. Je suis allé les voir je sais pas combien de fois. Et il y avait une drag queen qui pour moi était une révélation. Une grosse drag queen à l'époque. Je sais pas. Elle avait dans une soixantaine d'années. Et elle avait des numéros assez fantastiques. Numéros de cantatrice totalement délurée.
Une castafiore.
Une énorme boule à facettes. Et au fur et à mesure des dates... Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce petit jeune? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Tout le temps dans un coin. Et donc, on a commencé à discuter, à échanger, etc. Et quand je me suis mis au drag, en fait, j'ai automatiquement pensé à elle, parce qu'elle m'a énormément inspiré, parce qu'elle m'a légué aussi beaucoup de passion, de souvenirs. Et cette drag queen s'appelait la Grosse Bertha. Donc il y a cette idée de filiation, et maintenant Daniel Kikino, comme on l'appelait, a 86 ou 87 ans, mais voilà, c'est une histoire de passion et un petit clin d'œil.
Eh bien, j'aimerais qu'on revienne un peu sur un numéro. Ne serait-ce que pour comprendre comment est-ce qu'on conçoit un numéro de striptease. Est-ce qu'il s'agit d'une chorégraphie particulière, d'un climat, d'un tempérament, quel costume on choisit, le maquillage, c'est les grandes questions qu'on se posait avec François Angelier au moment de préparer l'émission.
Célèbre drag queen des années...
François Angelier.
Voilà.
C'était quoi votre nom, drag queen?
Je vous dirai ça à la fin de l'émission, où je phosphore un peu pendant les dernières minutes.
Alors, est-ce qu'on pourrait partir d'un numéro en particulier, ou alors...
Ah oui, il faut partir. Moi, je suis pour l'expérience concrète, et pour les cas de figure, surtout dans un domaine comme le striptease et le burlesque.
Alors j'ai envie de proposer un premier cas de figure, si par exemple je pense à Sucre d'Orge, alors j'ai pu la voir en Marie-Antoinette, en Poupée mécanique, j'ai pu voir aussi des petits striptease uniquement avec ses doigts, je pense à son déshabillé rouge, froufrouteux, moumouteux, tout à fait délicieux, mais il y a un numéro que j'aime particulièrement, c'est le numéro de la cavalière.
Ah, c'est de celui-là dont je voulais vous parler très souvent.
Ça tombe bien.
Alors, soyons concrets, soyons pratiques. Ça a commencé par une demande de Mademoiselle Hilo, qui est une créatrice de latex, avec qui je collabore, qui m'a dit « Sucre, j'aimerais qu'on refasse... Je vais refaire une soirée fétichiste qui s'appelait les... Je ne sais même plus comment d'ailleurs, Honte à moi. » Et qui m'a dit pour
peut-être
cette soirée...
C'est ça le nom de la soirée fétichiste.
Honte à moi.
Ah oui, ce serait génial.
C'est fantastique.
Ah oui, on va déposer ça en sortant. Et elle m'a dit « Pour cette soirée, j'adorerais que tu refasses un numéro en latex avec un de mes costumes. » Donc j'ai dit « Super. » Le truc, c'est que le latex, c'est une matière fragile, complexe et surtout très esthétique à voir mais très peu esthétique à enlever. Déjà parce que c'est compliqué, ensuite parce que dessous on sue comme un bœuf, donc ça fait des espèces de gouttes d'eau d'aspersion immonde. Mélangé à du talc, ça peut se transformer en pâte à pizza assez liquide. Et ensuite pour les bruitages qui, sauf fétichisme particulier, ont l'impression qu'on a la diarrhée. Donc, j'ai dit...
une poésie.
Exactement.
Ah, d'un érotisme.
On a l'image.
Hilo est au courant de tout ça. Donc, l'enjeu d'un effeuillage avec le latex, c'est enlever, mais pas trop. OK. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi, comme thème, question du thème. Ça ne suffit pas d'être plaisante à la vue, quoi. Et là, avec deux amis effeuilleurs, Vicomte Arbour et Elastix, ils m'ont dit... Mais pourquoi tu ferais pas une espèce de bourgeoise qui fait de l'équitation ? Et là, tout de suite, ça m'a plu. Je me suis dit, mais oui, bon sang, bien sûr, j'y ai jamais pensé. En plus, référence au Crazy Horse où le numéro final elle dit « Et je fais du cheval au bois de Boulogne », etc. Donc ça m'a... Je me suis dit, ah oui, oui, une bourgeoise un peu salope qui serait comme ça, inspirée par Catherine Deneuve, Belle de Jour. Du coup, le numéro, je l'ai appelé « Bête de Jour ». Et à partir de là, je me suis dit, très bien, et faudrait peut-être que cette bourgeoise qui prend son cours de dressage se transforme en cheval. Et là, ce serait vraiment amusant. Et donc, se transforme en cheval jusqu'à avoir des oreilles, une belle queue de cheval que j'ai fait fabriquer par la suite par Miss Cat Catastrophe, qui fait des fouets en crin de cheval que j'ai rencontré au Château d'Hélice. Au goûter du divin marquis qui m'a dit « Je peux te faire ta queue en crin ». Donc j'ai dit oui. Et moi, à faire un cheval sur scène, je voulais évidemment un énorme membre de cheval, mais métaphorique, qui sera un petit peu inspiré de Guernica, quoi, un truc un peu pointu. Donc voilà, ça c'était un peu l'image de global. Et comme je ne pouvais pas enlever mon pantalon moulant d'équitation, ça aurait été impossible, j'ai dit à Hilo, bah, faut quand même qu'on voit mon cul, sinon personne ne voudra voir ce numéro. Donc elle a fait avec brio un gros trou sur les fesses. Et pour moi, la pièce maîtresse de ce numéro, c'est la musique. Parce que quand on fait un numéro, bah, la musique, c'est hyper important. Parfois, c'est le moteur de la création. Parfois, on met des mois à la trouver.
C'est le point d'appui. Ouais, c'est
et oui, mais des fois, on ne la trouve pas. Et là, en l'occurrence, bah, je ne trouvais rien qui n'allait. Et j'ai pensé à un camarade que j'avais rencontré sur un spectacle qui composait des musiques. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que tu pourrais faire une création musicale ? Il m'a dit, avec plaisir. Et je suis allée chez une amie qui a un haras avec plein de beaux chevaux dans les bois de Fontainebleau, pour voir un peu le matos d'équitation, prendre un peu d'inspiration, parce que moi aussi j'aime le concret. Et elle m'a dit, ça t'embête pas, à 17h j'ai mon cours de dressage. Je lui ai dit, mais c'est exactement pour ça que je suis venue. Et là, j'étais avec mon petit carnet de notes à noter toutes les expressions, parce que je voulais poser ma voix sur des sons pour faire la musique. Et puis c'était trop compliqué de tout noter, donc j'enregistre la voix d'Hélène, qui était incroyable. Et c'était parfait. Et donc à la fin du cours, j'ai regardé Hélène, j'ai parlé du projet, j'ai dit « si tu serais OK pour qu'on utilise directement ta voix ?» Elle m'a dit « bien sûr ». Elle m'a appris à faire le trot et le galop dans le manège aussi. Donc c'était très instructif. Et la musique a été faite comme ça, et j'ai, comme consigne, j'ai donné quelque chose d'à la fois chic, bourgeois, chevalin, équestre et pornographique, avec une montée en puissance. Et je pense que ça a été très bien réalisé.
Tout ce qu'on aime, Céline. Alors, Big Bertha, là, c'est un autre univers, moins équestre.
Non, ça dépend.
Plus mystique.
Alors justement, même on aurait tout à fait envie de vous poser la même question. Est-ce que parmi la panoplie de numéros que vous avez pu proposer ou que vous continuez à proposer, bien sûr, de striptease, il y en a un en particulier que vous aimeriez nous raconter? Moi, j'ai à l'esprit, il y en a un que j'adore, que je ne me lasse pas de regarder, qui est celui de la nonne. Mais cela dit, ça peut être tout à fait autre chose. Vous avez même pu faire des striptease à l'envers aussi.
Ouais.
Donc,
des reverse.
Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter comme striptease de la Big Bertha?
Ben, je pense que je ne vais pas raconter un striptease en particulier. Je vais raconter juste comment je construis en fait tout ça. J'ai eu la chance de pendant 4 ans d'être prof d'effeuillage burlesque à la Tasseltease Company. Et ce que je disais à mes élèves quand elles venaient prendre des cours avec moi, je leur disais: on fait du burlesque, on fait de l'effeuillage, on sait très bien la finalité. On sait qu'il va y avoir une mise à nu, et je vais être très clair avec vous, mes enfants, mais savoir enlever un gant, j'en ai rien à foutre. Voilà, enlever un gant, tout le monde sait le faire, mais pourquoi vous enlevez le gant? Comment vous enlevez le gant? Je pense que chaque performeur est aussi un conteur d'histoire. Et pour moi, il est indispensable d'avoir une histoire, un point A, un point B, un point C, et amener le public vers justement un questionnement, une réflexion. Si je prends un exemple d'un de mes numéros, finalement j'ai dit que je n'allais pas prendre d'exemple, mais j'en prends un. Un numéro qui s'appelle Pinoup, qui était un de mes... C'était au tout début, je pense. C'était un numéro où, en fait, j'avais envie de parler de l'accueil qu'on m'a fait dans le milieu burlesque. Parce que je suis une drag queen, une grosse drag queen avec de la barbe. On appelle ça une draglesque. Et on est très peu, enfin, à l'époque, on était très peu à performer l'art du burlesque. Et quand je suis arrivé dans ce milieu-là, c'était 50% de gens ravis, de performeurs ravis de découvrir justement une draglesque, et d'autres pas très très contentes. Pas très contentes de voir une drag queen. Qu'est-ce qu'une drag queen barbue, grosse, vient faire dans notre univers? Voilà. Et je me suis dit, j'ai envie d'en faire un numéro. Donc j'ai créé un numéro qui commençait par du totalement classique, du burlesque classique, et après je redeviens la Big Bertha avec forcément tous mes attributs humoristiques et revendicatif, comme quoi
je reste...
Les attributs,
oui.
Oh, des formes généreuses.
Oui.
C'est ça, premièrement. Une barbe significative. Et aussi une grande gueule. Une grande gueule. J'aime bien percuter, j'aime bien déranger, j'aime bien que les gens aient une deuxième lecture aussi de mes numéros. Parce que le numéro de la bonne sœur, c'est sûr que si on attaque la première lecture, voilà. En plus, étant issu d'une famille très catholique où j'ai eu presque tous les diplômes, hein, on aurait pu m'appeler Père Lolo.
Hein.
Ah bon ? Ah oui. Mais voilà. La construction, moi, principale de mes numéros, c'est l'histoire que je veux raconter. Et quand j'ai cette trame, quand j'ai cette histoire, le costume vient dans ma tête, la musicalité aussi.
Voilà,
et voilà, moi, il me faut une base, il me faut une souche. Je ne vais pas monter sur scène juste pour enlever un gant. Ça ne m'intéresse pas.
Alors Céline, depuis quelques secondes, on entend le son du luth. Je disais en ouverture d'émission que Sucre d'Orge pratiquait le luth pendant ses numéros, ou après, ou oui.
Après, pendant, avant, ça fait partie des attributs de Sucre d'Orge, mais elle en a beaucoup d'autres. On pourrait aussi parler de ses pinceaux, parce qu'elle dessine, de son appareil photo, parce qu'elle prend des photos. Je sais aussi qu'elle parle chinois. Voilà, lutte, sucre, c'est faire beaucoup de choses. Mais là, je crois qu'elle nous a préparé, pour ce 28 décembre, une petite composition tout à fait joyeuse. Et licencieuse.
Tout ce qu'on aime.
Le chant des psaumes ne me fait rien. Le jus des hommes est mon seul bien. Je n'ai jamais fait que chercher où mon point G pouvait bien se trouver. Foutre après foutre, pipe après pipe. Depuis toujours, j'aime la bite. Et dans la nuit, je cherche celle qui saura me faire monter au septième ciel. Ton vie qui bute au fond du col inonde mon temple d'alcool et couvre mon corps de ton miel, le seul habit d'une obsédée sexuelle. Foutre après foutre, pipe après pipe. Depuis toujours j'aime la bite. Et dans la nuit je cherche celle qui saura me faire monter au septième ciel. Dresse ta matraque au fond du tarp. Vide ta gourde dans mon drap de soie. Oh mon pèlerin, casse-moi les reins. Sur le sentier, je veux boiter demain. Et sur la croix de Saint-André, tu brouteras mon présalé. Je gémirai ton oraison comme une putain qui jouit en sa maison.
Sucre d'orge qui nous interprétait aux luttes. On peut avoir plus de renseignements sur les...
Ce sont les psaumes de Marie Badelaine, composés à partir d'un psaume de pèlerin du chemin du Mont-Saint-Michel et réécrite avec grand soin par un ami à moi et moi-même.
Bravo.
On pouvait entendre cette composition dans le spectacle Le Seul en scène de Sucre d'Orge qui s'appelle Le Sucre d'Orge vous montre son luth. Et pas que.
Alors on évoquait effectivement le noble art, la manière de le pratiquer, de s'acheminer vers la scène, l'épanouissement comme ça de personnages et de vocations, mais il y a quand même des difficultés, des heurts, Céline Duchesnay, que l'on rencontre. Donc il faut militer un petit peu pour que les choses puissent se faire.
Je croyais que vous parliez des scratchs des fermetures éclair qui résistaient.
Il y a justement le scratch est le pire ennemi de tout effet burlesque. Ah. On déteste le scratch.
Pourquoi?
Parce que le scratch, exactement.
Et sonore.
Il fait du bruit, il est sonore, il est moche, il est laid. Alors on préfère de la petite pression, on préfère du guindage, on préfère de la petite ficelle, du ruban, des choses plus
des
délicates.
Agrafes.
Des agrafes, exactement.
C'est sûr que la petite pression, ça a un côté spontanément érotique. Le velcro, c'est plus dur.
C'est un kink.
C'est un kink, oui, voilà.
On ne juge pas.
Je suis velcrophile. Bonjour.
Mais il est vrai, enfin vous l'avez déjà dit, Big Bertha, au début de cet entretien, il y a aussi une dimension que vous avez effleurée tout à l'heure, c'est le militantisme. Je ne sais pas si le mot est peut-être un petit peu costaud de le dire comme ça, mais il y a, à travers un striptease, ce n'est pas uniquement vouloir montrer un corps dans des normes attendues par la société. Pendant très longtemps, le striptease a été associé aux femmes, et plutôt à une silhouette en particulier, même si elle a pu évoluer. Je pense que Blanche Cavelli n'avait pas les formes qu'on attendait dans les années 50. Mais l'un et l'autre, est-ce que le striptease est aussi un outil politique, par exemple ?
Ah là là, Libertin. Tout art devient politique désormais. Moi, mon art, je le considère... pas comme politique, parce que je n'ai aucunement envie d'être un porte-drapeau pour telle ou telle cause. Mon art, c'est un art performatif où je parle de mes problématiques, où je parle de ce que je vis et ce que je ressens. Et c'est la manière dont les gens reçoivent ces informations qui en font que mon art est politique. Sur ce fameux numéro des feuillages où je me mets entièrement à nu, où justement je me moque un peu de ce... de cette norme du genre où, où je commence à m'effeuiller et en fait on me dit, une voix off me dit, mais en fait on est totalement au courant que vous êtes un homme, c'est totalement ridicule. Et là j'enchaîne sur une mise à nu complète. Pour moi, à la base, ce numéro que j'avais écrit, c'était justement pour me moquer de ce burlesque classique et de montrer comme quoi une drag queen peut aussi s'effeuiller. Quand je l'ai présenté, beaucoup de gens m'ont dit que c'était un acte fantastique et c'était un acte qui était contre la grossophobie, alors que moi, c'était pas du tout le sujet de base. Donc il y a cette réappropriation des gens, du message. Mais après, c'est certain, moi j'en suis extrêmement fier de pouvoir performer sur scène et de pouvoir montrer un corps avec qui, désormais, je suis en paix et un corps qui est différent parce qu'on n'en voit pas assez. Parce que cette norme nous demande justement certains diktats de mensuration. Ben moi, j'en ai rien à foutre. Très clairement. Donc, de ce principe-là, oui, ça reste politique, mais moi, j'ai juste envie de donner des gros coups de poing dans la fourmilière, quoi.
Sucre d'orge. Vous, le striptease, est-ce qu'il y a des messages que vous faites passer ou pas, hein ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr.
Non, je ne crois pas, en ce qui me concerne.
Ah bon ?
Je ne sais pas si on dirait malheureux. Ben non, franchement, est-ce que je fais passer des messages, moi ?
C'est avant tout esthétique, un univers, un personnage.
Esthétique dans le sens large, quoi. Pas forcément beau et de moins en moins, parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est tout bête, hein, c'est faire quelque chose qui m'amuse, qui soit un peu jubilatoire, et par tous les moyens. Donc, est-ce que ça, aujourd'hui, c'est politique ? Peut-être, et c'est peut-être triste, je ne sais pas. Mais ça peut être esthétique, oui, parce que je vais toujours rechercher. J'ai une pensée par image, et donc. Je vais chercher des images, pas forcément jolies, mais des images. Après, non, tu avais l'air étonnée, Bertha, quand j'ai dit ça. Mais pourquoi ?
Oui, totalement, parce que moi, quand je pense à Sucre d'orge, je pense aussi à une liberté de penser, et surtout une liberté sexuelle, parce que tout ce qui est sexualité, c'est quelque chose qui est très récurrent dans tes numéros, et c'est quelque chose que j'adore, parce que des fois, tu peux avoir cette esthétique qui est très... qui est très léché, qui est très normé aussi, tu vois, des fois. Mais dans le langage, dans la parole, il y a une liberté sur la sexualisation de la femme qui est totalement normale et qui vient à l'encontre, justement, de la bienséance. Et moi, je trouve que c'est ça, le caractère de Sucre d'orge. Mais de toute façon, on est toujours mieux défini par les autres.
Bah après, oui. Et peut-être que du coup, en ça, ça a forcément... De toute façon, tout ce qu'on va proposer sur scène à un public, théoriquement, il a une portée, quoi. Mmh. Mais comme disait Bertha tout à l'heure, c'est la portée dans l'œil de celui qui la regarde, pour le coup. Donc, moi, je ne me sens pas... Peut-être malheureusement, parce que, bah, par exemple, il y a d'autres formes de cabaret. Je pense à mon ami Martin Dust, où là, au cabaret de poussière, justement, c'est très politique. Et la fois où il m'a proposé d'aller les rejoindre, en fait, à un moment, je me suis dit que j'avais rien à foutre là-bas, parce que justement, je me sentais pas engagée, pas assez, pas... Enfin, j'étais un peu presque complexée par rapport à ça. C'est pas que j'ai pas d'avis, mais bon, enfin, ça serait trop long d'en parler. Du coup, pas légitime, en fait, ouais, pour dire des choses comme ça. Bon, j'ai trouvé une place, mais voilà, moi, c'est vrai que de mon point de vue, je me sens pas trop m'inscrire dans un acte volontairement à message. Ceci dit, comme j'adore parler et raconter des histoires, il y a forcément des messages. Et comme j'adore improviser, je pense qu'ils sortent malgré eux et... Ben, comme on est tous un peu une éponge, ça doit forcément s'inscrire dans le temps.
Voilà pour le dernier mauvais genre de l'année 2024. Nous recevions Sucre d'Orge et la Big Bertha que l'on peut retrouver où et quand?
Alors, je t'en prie, Sucre.
Sucre d'Orge.
Alors, dès le 31 décembre, je vais chanter à Deauville, dans un endroit très très chic, mais dont je ne connais pas encore le nom exact.
Vous êtes sûr que c'est très très chic, en tout cas.
C'est très très chic. Tous les mercredis, vous pouvez me voir au Bœuf sur le Toit, dans le 8e arrondissement. Le 7 février, je serai à Lyon, au Boudoir, pour faire mon seul en scène, Sucre d'Orge, je vous montre son luth. Et le 22 février aussi, à Rouen, à la librairie Café Théâtre, Les mots éphémères. Et puis, si vous en voulez plus, allez sur mon site internet, sucredorge-burlesque.com.
La Big Bertha, pour vous voir.
Eh bien, moi, pour me voir, si vous avez encore de la force après les repas de Noël, vous pouvez me retrouver les 29 et 30 décembre à Lyon, au Théâtre des Célestins, avec le cabaret La Barbichette, ou alors aussi dans un autre rôle, puisque je suis aussi maîtresse de cérémonie. Et fin janvier, je vais être maîtresse de cérémonie du Picard Burlesque Festival, suivi du Strasbourg Burlesque Festival. Et après, on peut aussi me retrouver début février sur mes événements que je fais à la Machine du Moulin Rouge, qui s'appelle la Bertas Fantasia, un cabaret pluridisciplinaire avec des artistes qui viennent des quatre coins du monde. Et pour le reste, ben, vous pouvez aller vérifier, checker toutes mes dates sur mes réseaux sociaux.
Merci d'être venu au Mauvais Genre Burlesque Festival Sucre d'Orge et la Big Bertha. Place aux chroniques dans Mauvais Genre et l'on commence par l'almanach de l'étrange.
Vous avez déjà sûrement entendu parler du fameux syndrome de Stendhal, rappelez-vous. C'était quand l'écrivain était tombé en pâmoison devant une œuvre d'art en 1817 à Florence, au point d'en défaillir. Alors depuis, la formule est passée dans le langage courant pour décrire un choc esthétique à la fois céleste et douloureux. Alors moi, j'ai un autre type d'expérience à vous proposer, moins dangereuse, sans palpitations cardiaques ni évanouissement. C'est le presi per incantamento, ce qui veut dire en italien « surpris par l'enchantement ». On doit la formule à Dante. C'est l'effet de ravissement qui subitement vous arrache à la réalité quand vous rencontrez une œuvre d'art. On est du côté de l'émerveillement, des pieds qui se décollent légèrement du sol et sans malaise. Et c'est exactement ce que propose une exposition qui se tient actuellement à Tours, au Centre de création contemporaine Olivier Debré, et qui s'intitule « Presi per incantamento ». Imaginez l'expérience, vous arrivez dans un grand espace lumineux, très clair, pas de parcours imposé. Il y a comme une sorte de flottement dans l'air qui vous permet de vagabonder et de virevolter d'une œuvre à l'autre. Et le fil rouge de l'exposition, en tout cas c'est ce qu'expliquent les deux commissaires, c'est celui d'un paysage visionnaire qui introduit la dimension du merveilleux, du magique ou parfois même de l'effroyable et qui nous arrache à la réalité. Alors, vous vous dirigez à l'instinct vers de toutes petites taches de couleurs, vous découvrez de minuscules constructions de brindilles, de tiges, de graminées qui forment des architectures aussi délicates que fragiles. Ce sont celles de l'artiste Christiane Laure. Au mur semble flotter en apesanteur une toison douce en poils de chien et de graines de plantes, un nuage fait de semis et de résilles, et au loin, il me semble apercevoir posé au sol un autre nuage brumeux. Tout doucement, on s'arrache à la réalité. Mais l'oreille est vite attirée par le son de cailloux jetés dans l'eau. On découvre la vidéo de Gino De Dominicis, l'artiste, apparaît au bord d'un lac tentant de former des carrés dans des cercles d'eau, puis sur un petit rocher, essayant de voler en battant des bras comme un oiseau. Et au fil de notre promenade, on devine bien que l'exposition nous parle de la fragilité du vivant, quel qu'il soit. Mais plus que tout, je dirais que l'exposition nous plonge surtout dans des sensations et joue sur la fine frontière qui sépare la réalité du rêve. Et puis, il y a une sorte d'onde qui nous guide tout le long. C'est le bruit du vent, un vent qui souffle au loin et qui finira par nous attirer dans une pièce noire où se trouve l'installation sonore de l'artiste Maria Teresa Sartori. Au sol, un cercle de lumière, on y met les pieds, on ferme les yeux et là, on commence à vaciller. Le son du vent nous entoure, il nous traverse puis semble véritablement danser autour de nous. Qu'est-ce qu'on entend? Des tornades de vent, un cœur humain?
Qu'est-ce qu'on vit? Une tempête céleste? Une transe magique? Quelle que soit la réponse, les sens en éveil nous voilà tout simplement émerveillés, surpris par l'enchantement, le temps d'un instant. Prezi per Incantamento, c'est donc une exposition collective à découvrir à Tours, au Centre de création contemporaine Olivier Debré, commissariat Chiara Bertola et Isabelle Reyer, à voir en ce moment et jusqu'au 4 mai.
Merci Céline. La chronique maintenant de Paloma Hermine Hidalgo.
Ouais, basculons maintenant dans un vertige futuriste queer, tissé de haute couture parisienne, de cyberpunk, d'onirisme poétique et de vidéoclips manière années 80. Vrillons, hein, si vous le voulez bien, dans Les Nuits sans Kim Sauvage de l'autrice transféministe Sabrina Calvo. L'intrigue, en substance? Eh bien, la jeune Vic, abandonnée enfant dans un hyperstore Ikea, a plus tard été recueillie comme stagiaire dans un impitoyable magazine de mode où fulgurent, eh ben, les mannequins pâmés sous les fitcams, les moires et les sequins distillés, l'iridescence des holos, j'en passe. Mais, Vic trouve bientôt refuge dans l'ouvert, un monde virtuel qui prolonge et dépasse notre internet et où elle adopte l'avatar de Nova. Nova? Eh bien, son double, la version idéalisée d'elle-même, subtilement s'exploiter, la bimba de son cœur, toute d'or pixelisée. Puis un jour, hein, émerge une entité rebelle, une conscience insaisissable, j'ai nommé Kim Sauvage. Kim, dont la quête obsessionnelle scandera désormais l'intrigue. Le tout, et c'est d'une bouleversante pureté hantée à chaque pixel par cette nostalgie éperdue de la mère, cette mère naguère sacrifiée au mannequinat, hein, cette pauvre mère, dit-elle, qui se révèle statue, grâce parfaite, réduite hélas à un logo, à un spectre de marque. Les Nuits sans Kim Sauvage, c'est en fait un dédale, une fable éclatée qui interroge notre rapport à l'identité, au corps et à l'obsession capitaliste du « toujours plus ». Vic, ou plutôt... Nova devient à la fois sujet et objet de désir, hein, une icône que l'on consomme et que l'on sublime, mais qui porte en elle toute la fragilité et la solitude d'une génération plongée dans l'aliénation numérique. Alors on pense par instant à des auteurs, et non des moindres, comme Bruce Sterling ou plus encore William Gibson, et son expression de la mode comme techno-esthétique et système d'exploitation identitaire, entendez, un code que l'on porte sur soi, une interface de soi-même. Mais là où Gibson et Sterling décrivent un univers où l'individu est façonné, voire broyé par le techno-consumérisme, Calvo, elle, insuffle une rage de vivre, un combat pour la survie. Et puis en résulte un récit initiatique sensoriel, doublé d'une fiction politique ondoyante, pailletée d'anglicismes et de néologismes à gogo, en un mot, riche d'interrogations sur l'aliénation junk d'ultra fast fashion, je la cite, mais aussi sur la transidentité comme territoire de liberté, et de manière universelle, la perte de soi. Les Nuits sans Kim Sauvage de Sabrina Calvo, un roman chatoyant, paru à la rentrée 2024 aux éditions La Volte.
Merci Paloma, merci Sucre d'Orge, merci à Big Bertha d'avoir merci été les invités du dernier Mauvais Genre de l'année 2024. Donc, Prezi per Incantamento, c'est à Tours, au Centre de création Olivier Debré. Le roman de Sabrina Calvo, c'est audition La Volte. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Ludovic Auger, Claire Poissignon, Céline Duchesne, Claire Martin Duguerre, Paloma Hermine Hidalgo et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour la première de 2025.
Vous êtes bien sur France Culture.
Entre la Russie et l'Ukraine, qui veut la paix? Et quelle paix?
Jean Lemarié.
Après bientôt 3 ans de conflit, qui y a intérêt? Entre guerre et diplomatie, c'est le programme demain sur France Culture.
Les matins de France Culture, demain à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Sindbad, un marin de Bagdad, nous raconte les 7 voyages qui, tout au long de sa vie au 9e siècle, lui ont permis de s'enrichir et parcourir des terres inconnues.
Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures. Je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâché de l'entendre.
Sindbad le marin, un conte des mille et une nuits. Réalisation Christophe Hoquet, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture. Tout de suite, les nuits de France Culture.